Ce soir n'est pas un soir comme les autres. Ce soir, nous sortons de Radio Courtoisie. Ce soir, nous déambulons dans les couloirs du métro. Nous nous dirigeons vers un lieu qui nous ouvre ses portes. Et pas n'importe quelle porte. Exceptionnelles par leurs dimensions qui les rendent plus grandes que la porte de bronze de Saint-Pierre de Rome. Des portes en bronze, une fonte extrêmement savante. Elles peuvent défier le temps à l'image des bronzes antiques, du bronze nu. Sans artifice, sculpté par le baron Henri de Tricchetti en 1841, un livre d'images de l'Ancien Testament. Pour arriver jusqu'à cet endroit, qui est notre chez-nous ce soir, il faut affronter le chaos urbain. Et une fois arrivé, c'est l'histoire avec un grand H qui s'affiche comme une avalanche de printemps. Le chaos devient silence, les temples romains s'harmonisent à nos monuments chrétiens. C'est alors une allure inégalée, un prénom à jamais gravé, Marie-Madeleine. La Madeleine. Une œuvre à contempler, une œuvre à comprendre, mais aussi à écouter, car la pierre parle et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Monseigneur Chauvet, curé de l'église de la Madeleine. Je le remercie pour nous ouvrir les portes de la Madeleine pour cette série et nous l'avons écouté la fois dernière ainsi que Michel Geoffroy, organiste titulaire de l'orgue de chœur. Ce soir, je suis accompagnée d'Éric, comme toujours, et nous rencontrons François-Henri Houbard, titulaire du grand orgue de la Madeleine. Nous devons cette série à Monseigneur Chauvet, à de belles rencontres, des moments intimes, des moments de partage, et c'est tellement rare. Nous vous les offrons ce soir et j'espère que dans cette soirée, vous trouverez du réconfort. Nous venons d'écouter Marie-Madeleine au pied du Christ d'Antonio Caldara, composé en 1698, interprété ici par le contre-ténor Damien Guillon et l'ensemble Le Banquet Céleste. Le Banquet Céleste, fondé en 2009 par Damien Guillon, est un ensemble de musique sur instruments d'époque et en résidence à l'Opéra de Rennes. Le Banquet Céleste poursuit son exploration de la musique baroque européenne. Nous sommes maintenant avec Eric. Nous avons rendez-vous avec François-Henri Houbart et nous discutons de musique, bien évidemment, et de Glenn Gould. Glenn Gould disait qu'en tant qu'organiste, il pensait au violoncelle, à la voix de la main gauche, comme si elle devait être jouée avec les pieds. On écoute tout de suite ce moment suspendu de l'attente de François-Henri Houbart avec Eric, avec Glenn Gould, interprété à l'orgue l'art de la fugue BWV 1080 contrepoint 2 de Jean-Sébastien Bach, un enregistrement de 1962 réalisé sur l'orgue de l'église anglicane All Saints de Toronto au Canada. Cet orgue a été démoli depuis pour être remplacé par un plus moderne, et dans cette interprétation, Glenn Gould adopte un toucher détaché, staccato, non legato, pour interpréter la musique de Bach et pour en faire ressortir la polyphonie. Et nous entendrons également, pour Eric, une interprétation de Murray Peraya avec un extrait du concerto pour piano en fa mineur, BWV 1056 de Jean-Sébastien Bach, avec l'ensemble Academy of Saint Martin in the Fields. Bonne écoute sur Radio Courtoisie.
Il faut improviser, accompagner, faut transposer à tout moment. Qu'est-ce qu'il faut faire encore quand on est organiste? Improviser, savoir interrompre des cadences, c'est un métier. Hein. Pour moi, ce sont les musiciens les plus complets sur le point de vue, je dirais, écriture musicale. D'ailleurs, aujourd'hui, des bons organistes liturgiques, il y en a beaucoup moins qu'il y en avait autrefois, du temps où il y avait le chant grégorien, où il y avait les messes grégoriennes. Donc on en trouve, bien sûr, à la Madeleine, on en trouve à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, on en trouve dans de nombreuses grandes paroisses. Mais beaucoup de jeunes organistes aujourd'hui ne savent plus accompagner le grégorien, c'est dommage. C'est dommage, oui. Mais ça se comprend. Aujourd'hui, le grégorien est très peu chanté. Très, très peu chanté. Faut faire part, faut intervenir à tout moment. Ce qui serait intéressant, c'est que vous assistiez du grand orgue à une messe du dimanche soir, par exemple, ou du dimanche matin même, et vous verrez tout ce que peut accomplir un organiste. En fait, je dirais, dans un office, il y a deux personnes fondamentales, le célébrant et l'organiste. Vous parlez de l'acoustique de la Madeleine, il y a une acoustique très difficile ici. Très très difficile, et c'est très paradoxal parce que, en fait, c'est une église où il y a énormément de concerts, tant symphoniques, chœurs, chorales, orgues bien sûr. Et pourtant, l'acoustique est très difficile. Il y a une acoustique, une réverbération de 8 à 9 secondes. Et au bout de la 8e, au bout de la 8e, 7e, 8e seconde, le ton baisse d'un demi-ton. C'est très curieux. Enfin, on fera l'expérience. Ça se fait surtout du grand orgue vers le chœur, et beaucoup moins de l'orgue de chœur, qui est un très bel orgue ici, qui pourrait déjà être un grand orgue dans beaucoup d'églises. Il y a 22 jeux harmonisés tout à fait en orgue frère avec le grand orgue de face. Et parfois même, quand on est au fond, près de l'entrée, on croit que c'est le grand orgue qui joue, et en fait c'est l'orgue de chœur. Et il sonne très très bien, cet orgue. Et Michel Geoffroy est un organiste de très très grand talent, très grand musicien, qui joue de plusieurs instruments d'ailleurs, du piano très bien sûr, du trombone, enfin il a... il vous dira tout ça. Oui, c'est intéressant la remarque de Glenn Gould. Il était très musicien, Glenn Gould.
Il était organiste avant d'être pianiste.
Oui, oui, oui. Oh ben oui, c'est un musicien accompli. Alors, c'est amusant parce que où il déplaît, où il enthousiasme, Glenn Gould. J'étais très surpris qu'un grand pianiste comme Alfred Brendel, qui est vraiment pour moi un des plus grands pianistes qui ait existé au cours de ce 20e et début 21e siècle, avec d'autres bien sûr aussi, comme Émile Guillez, qu'on ne va pas les nommer tous, mais il fait partie de ces 10 grands pianistes mondiaux, qui avait une critique vis-à-vis de Glenn Gould, que je peux comprendre, mais en même temps, le cas Glenn Gould est un cas unique. C'est un cas unique, Glenn Gould. Il ne faut pas chercher à l'imiter, il est Glenn Gould, il a une façon de jouer. Tout est tellement distinct, tout chante tellement dans ses interprétations, unique en lui-même. Okay. C'est un personnage très intéressant.
Vous êtes gouldien?
Oui, j'aime bien écouter Glenn Gould. J'avoue que j'ai beaucoup de ses disques et j'aime beaucoup écouter Glenn Gould. Pianiste qui interprétait remarquablement Bach, c'était Murray Peraya. Thank you.
Nous sommes maintenant avec François-Henri Houbard, qui est au Grand Orgue depuis 1979, 47 ans. Il nous donne ce soir de grandes références, des noms de grands organistes, mais il ne nous dit pas tout. François Houbard possède l'humilité des grands, des très grands, et s'il ne se raconte pas, alors je vous en parle. Une aura d'organiste, un corps en mouvement, et c'est toujours beau. Il est né en 1952 à Orléans, organiste, improvisateur, compositeur et pédagogue français de renommée internationale. Il est titulaire du grand orgue de l'église de la Madeleine depuis 1979, soit plus de 47 ans à ce poste prestigieux. Il commence le piano à 7 ans, et l'orgue à 11 ans. À Paris, il étudie l'harmonie, le contrepoint et l'orgue avec des maîtres comme Pierre Lantier, Suzanne Chaise-Martin, Michel Chapuis et Pierre Cochereau. En 1979, il est nommé organiste titulaire du grand orgue de la Madeleine, succédant ainsi à des figures historiques telles que Camille Saint-Saëns, Théodore Dubois et Gabriel Fauré, ce qui le place dans une tradition prestigieuse. Depuis 2020, il est assisté dans ses fonctions par Olivier Perrin, titulaire adjoint, que nous écouterons dans le troisième volet de cette série. L'un de ses points forts reconnus est l'art de l'improvisation. Il est considéré comme l'un des plus grands improvisateurs d'orgue actuels, capable de créer des pièces sur place, en concert ou lors des offices liturgiques. François-Henri Houbard a donné plus de 1200 concerts et récitals à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, ce qui fait de lui un ambassadeur de l'orgue français dans le monde entier. Il nous fait un cadeau ce soir, celui d'entrer à l'intérieur du grand orgue de la Madeleine. Nous l'écouterons jouer en direct et interpréter trois pièces pour orgue numéro 3 de Nadia Boulanger et le prélude de chorale 1 des œuvres pour orgue de César Franck, enregistrement réalisé sur le grand orgue. Cette soirée est dédiée à François-Henri Houbard, généreux dans ses échanges et il manie l'entretien avec enthousiasme. Et c'est un vrai plaisir. Allons maintenant dans le grand orgue de la Madeleine.
Là, on va monter l'escalier qui est un escalier d'origine, donc qui doit dater des années, on va dire, 1840, qui probablement n'a pas changé, hein, que ce soit les ferronneries. Et vous remarquerez, bon, ça n'est pas télévisé, mais ça vaut toujours le coup de le signaler, il y a les becs de gaz. Parce qu'évidemment, à cette époque-là, on n'avait pas les lampes électriques pour nous éclairer. Donc c'était des becs de gaz qu'on a évidemment conservés. Bah, de toute façon, le lieu est classé. Donc on ne peut pas y toucher et je n'y tiens pas de toute façon.
Hein? C'est l'escalier.
Tu refermeras, Eric? Hein? Eric?
Oui, je referme.
Voilà.
Ah bah non, mais pas. Non, mais qu'il est couillant.
Et ce qu'il faut se dire, ce que je pense, c'est de se dire. Dans cet escalier a été gravi par des gens très connus, des grands compositeurs. Alors, pas que les organistes de la Madeleine qui sont parmi les plus célèbres, c'est-à-dire Saint-Saëns et Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré. Alors, Nadia Boulanger, elle était suppléante de Fauré, mais elle n'a jamais été titulaire. Ah ben, il y a des... Oui, Nadia Boulanger, évidemment, qui avait 15-16 ans quand elle faisait des remplacements de Fauré. Donc cet escalier que l'on est en train de monter a été gravi par des gens très connus. Mais oui, et aussi... Alors, j'allais le dire.
Ah, pardon.
Et Franz Liszt, qui était un ami de Saint-Saëns. Saint-Saëns recevait pas mal d'amis à lui. Clara Schumann, la femme de Robert Schumann, le compositeur. Il y a eu... Oui, Franklin Bruckner, en 1869, qui est venu ici et qui a improvisé. Beaucoup de... Bah, Saint-Saëns rayonnait dans le monde entier. Hein. Donc, il recevait des gens très connus. C'est ça qui est... Alors, moi, j'y pense souvent. Ça m'émeut tout le temps de me dire, là, sur les mêmes marches, des très grands qui sont dans le dictionnaire.
C'est dans l'histoire de la musique.
Qui sont l'histoire de la musique, vous avez complètement raison.
Mais vous y êtes aussi?
Oui, alors moi, comme je dis,
j'ai un père qui a une place qui porte son nom à Orléans, et pour blaguer, je dis toujours, mais moi j'aurais une impasse. une venelle, allez.
Mon père a une place, oui.
Ah oui, c'est vrai que tout le monde ne peut pas dire ça.
Mais
vous êtes classé parmi le plus grand improvisateur de l'orgue du monde. Si, je l'ai lu ce matin.
Vous savez, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal, surtout en France. Et là, pour ne rien vous cacher, je viens de
déjeuner avec quelques amis, et dont Lucille Dola, qui est organiste, qui est jeune professeur au Conservatoire de Paris, qui est une improvisatrice remarquable et interprète, évidemment. On a encore une école d'orgue française qui est très réputée en interprétation et en improvisation, ce qui est un peu une des spécialités françaises. Vous avez à l'étranger quelques organistes qui improvisent, des pianistes, mais c'est un peu la spécialité de la France. C'est une tradition. C'est une tradition qui remonte à des siècles et des siècles en arrière, hein, pas qu'à bien avant le 19e siècle, on improvisait des versets à l'église. Entre, vous aviez le chœur qui chantait les gens, et les messes ou toutes sortes d'offices, et puis l'orgue qui faisait des intermèdes en somme. Donc l'improvisation, elle se pratique depuis des siècles et des siècles.
Et il me semble que c'était dans la charte des recrutements des organistes savoir improviser pendant la liturgie.
Pour avoir ce qu'on appelle la carte professionnelle, pour avoir en somme le diplôme qui permet d'être titulaire d'un orgue à Paris, il y a une partie improvisation, tout à fait, absolument.
On a la grande chance d'être... tout en haut, surplombe.
Là, eh bien oui, tout à
fait. C'est magnifique.
On domine. Je vais vous ouvrir, je vais allumer.
Là, on est dans le sous-bassement.
Tu veux que j'aille allumer en bas ?
C'est juste un étage en dessous, là. Tu sais, il y a un bouton. Il y a une grande armoire.
Il y a deux boutons rouges.
Bah, tu verras si tu sautes. Non. Oui, voilà, ça y est. Vous voyez ?
Voilà.
Là, on est dans le sous-bassement.
Là, ce sont les poumons de l'orgue.
Il n'y a pas de danger. Là.
Ce sont les poumons de l'orgue, là.
Attends. Si on ne touche pas ici les parties mécaniques et électriques. Vous voyez ? Là, on est dans le sous-bassement, avec, comme disait Eric, les poumons.
Bon, c'est pas vrai ça. Ah non. Bon, un Allemand, pourquoi pas de décalage horaire.
Alors, vous voyez, les soufflets.
Alors.
Qui permettent d'envoyer l'air dans les tuyaux. Et la console est derrière. Alors, tout ce qui était de la mécanique, maintenant, c'est des câbles, puisque l'orgue est à transmission électrique.
Tu veux que j'aille allumer pour qu'on voit les soufflets ?
Ah ben je veux bien, tiens, très bien, ça. La petite clé, ah ben très bien, on va aller voir ce que ça fait, et le bruit, parce qu'il y a l'air qui arrive, et les soufflets,
ça sont les soufflets,
oui, tout ça c'est des soufflets,
ouais.
Qui vont permettre d'entendre,
qui vont produire le vent dans le...
Voilà, et le ventilateur, ce qui amène l'air, est dans les combles, donc assez loin. Entre le moment où il allume,
ça y est,
il a allumé. Ça va démarrer dans quelques secondes. Là, c'est en train de tourner. En haut. Ça y est, ça va craquer. Les pots. Ça y est. Vous voyez, ça monte.
Oh, tiens, Eric.
Soufflé à pied parallèle, comme on dit.
Donc maintenu à des pressions bien déterminées.
Oui.
Pour
absolument.
Alimenter l'ensemble de l'or du grand.
Oui, il y en a partout là.
Mm-hmm. Tout à coup, il y a 1, 2,
3, 4, 5,
6, 13, 14.
14 soufflets, oui. C'est énorme.
Hein. Ça tourne
super. Ah bah c'est pas un petit orgue hein, ici, c'est quand même un grand.
Une grosse machine.
Une grosse machine.
Je vois des. Ouais. Je sais pas.
Alors avant, vous aviez ici, alors je les ai connus,
mais ils ne fonctionnaient déjà plus, vous aviez les soufflets ici. Les gens pompaient, il y avait deux grandes pédales ici, et les gens soufflaient de chaque côté. Non. Il y avait deux souffleurs ici.
Deux souffleurs, oui. Il y avait deux suffisaient. Il n'y avait que 45 jeux à l'époque.
À Notre-Dame, c'était 7, je crois.
7, oui.
Là, il y en avait deux. Qu'est-ce qui est tombé? C'est une bague? C'est quoi? Non,
ah,
c'est pas.
Je
non,
ne sais pas.
C'est pas à nous.
Non.
Non, un anneau. Tiens, bah, mets-le dans la poubelle, oui. Là. Là, je vois qu'il y a une petite poubelle. Voilà, là. Donc, voilà la partie R. Alors, ça, c'est très classique. Hein. Bon, cet orgue est ancien. Hein, il est de 1800. Il était terminé en 1846. Mais les soufflets, eux, sont des copies des originaux. Et ça a été refait dans les années 80. Quelques années après mon arrivée, je dirais vers 82-83, parce que l'orgue était en assez mauvais état au niveau justement de l'alimentation en air. Il y avait eu la sécheresse en 1976 qui avait beaucoup abîmé les soufflets, les pots. Les pots étaient craquelés, des pots de mouton. Donc là, ils n'aiment pas la sécheresse. C'est ce qui explique cette bassine qui parfois est remplie d'eau du coup. En plein été, s'il y a de la sécheresse, on met de l'eau,
oui, j'ai
pour humidifier.
Il fallait aérer aussi voilà. Beaucoup, qu'il fallait laisser les portes ouvertes.
Tu as la chance ici d'avoir les colonnades tout autour qui protègent un petit peu.
On avait des humidificateurs dans tout l'instrument, mais ils étaient très mal réglés. Et on les a enlevés parce que ça provoquait des inondations quelquefois.
Ah oui.
Et une fois, ça m'est arrivé, enfin plusieurs fois. Et ça avait bloqué tout un clavier, le troisième clavier, pendant plusieurs semaines, voire mois.
Ah oui.
Parce que l'eau dégoulinait partout. Et moi, j'ai dit, ah non, je préfère encore qu'on asperge, qu'on mette des serpillères, mette des bassines d'eau. Parce que non, ces appareils automatiques, on n'arrivait pas à les contrôler.
Oui.
Donc, j'étais pas trop d'accord. Ça faisait des dégâts.
Oui, c'est vrai.
Bon, on va
continuer
vers la console. Thank you. Et comme je disais, je parlais d'un orgue historique, enfin de la partie historique de cette église. Et l'orgue est classé, parce que cet instrument de cavaille-école a quelques particularités. D'abord, c'est un des tout premiers dans la carrière d'Aristide Cavaille-École, 1845-46. C'est le troisième grand instrument après Notre-Dame de Lorette et la Basilique de Saint-Denis, et arrive après la Madeleine. Et cet orgue a quelques particularités. C'est le premier quatre claviers de ce facteur. C'est la première grande console séparée. En général, l'organiste jouait, on peut dire, dans l'orgue, sous l'orgue, ce qu'on appelait une console en fenêtre. Ça existe toujours, évidemment, sur beaucoup d'instruments. Mais au 19e, l'organiste est tourné vers le chœur. Donc c'est la première grande console séparée. Et puis, bon, ça c'est une particularité que j'aime bien signaler, c'est que vous avez un jeu ici, au deuxième clavier, qui s'appelle la Voix Céleste, et qui est la première du monde à s'appeler comme ça, vous voyez. Donc historiquement, ce que vous allez entendre. Voilà. Première voix céleste. Alors, vous aviez des jeux, notamment en Italie, qui existaient depuis bien avant cette voix céleste, la Voce Umana. Vous aviez en Allemagne, au 18e, des jeux qui étaient assez proches de ce qu'on vient d'entendre. Mais le jeu de voix céleste, comme il s'appelle la voix céleste, c'est le tout premier au monde. Voilà. Donc il y a des particularités. Une particularité aussi, c'est que cet orgue a été construit en 1845-46, à une époque où la facture d'orgue était encore très influencée par l'Ancien Régime. Les facteurs d'orgue qui avaient 60 ans, 70 ans, qui ont travaillé sur cet instrument, avaient commencé sous la Révolution. Donc connaissaient très bien le facteur lui-même en tête, par son père et par son grand-père. Donc, ce qui explique un certain classicisme au niveau du son, de la composition de l'instrument, mais avec une avancée vers le 19e siècle. Vous avez des jeux ici qui sont caractéristiques du 19e. Donc, on est entre le 18e et le 19e. Et comme je dis souvent, c'est le grand orgue de transition. C'est le grand orgue parfait. En somme, on est entre les deux. On est entre les deux. Quand je dis Ancien Régime, d'ailleurs, là, on est sous Louis-Philippe. Donc, il y a encore, j'allais dire, de la royauté. Mais il y a beaucoup d'influence. Parce que ce que je vous disais, la voix céleste, on trouve des origines en Allemagne, on trouve des origines en Italie. Et justement, une des grandes personnalité, je trouve, de Cavaille-École, c'est qu'il connaissait parfaitement l'orgue européen et, j'allais dire vulgairement, qu'il a pompé un petit peu sur tout le monde. Il y a des caractéristiques anglaises, il y a des caractéristiques espagnoles de par ses origines d'une de ses grands-mères. L'orgue français, évidemment, l'Allemagne, il a été assez influencé par l'Allemagne. Italie, voilà. C'est un orgue européen, très universel. Il avait une connaissance. Quand il était jeune, il avait fait un grand voyage en Europe, notamment en Allemagne. Donc il a été influencé. Il était en relation avec Henry Willis, la famille Henry Willis, parce qu'il y a eu Henry 1, 2, 3, 4. Et il était en correspondance avec les facteurs anglais. Disons, il était en correspondance. Il avait l'intelligence de.
Alors, où est-ce que je l'ai coupé? Il est réactivé, votre vidéo est arrêtée. Vrai. On vous entend très bien. Par contre, je ne vous vois pas. Et vous me voyez, vous?
Oui,
bon, alors où est-ce qu'il faut que j'aille, Cyril?
Ben, je connais ça, ce truc qui est parlé. Voilà, ça c'est beau.
Bon. Ok, maintenant il faut que je vois comment je mets le fond là. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est mon téléphone. Parce que mon ordi, marqué, éventuellement on essaye l'ordi. Parce que je ne peux pas le mettre sur mon téléphone, c'est ça le fond. Vous avez 2 minutes, Claudia, pour qu'on fasse l'essai quand même avec mon ordi. D'habitude, j'utilise toujours mon téléphone parce qu'il n'est pas génial en micro. Mais si vous voulez bien, on fait l'essai. Si je ne vous dérange pas. Bon, bah, j'y vais avec mon ordi. Paf. Tout va bien sinon? Ça va, il y a pas mal de gens qui commencent à avoir envie de faire des podcasts ou pas? Ouais. Bon, c'est super. Ouais. Très bien. Oui, j'ai l'impression. J'espère que vous allez être contente des résultats et des chiffres d'audience. Alors, bam, bam. Tac. Voilà. Hop. Ça peut prendre quelques instants, machin. Alors voilà, c'est là qu'il y a des paramètres. Tac, tac. Ah ben oui, je suis avec les deux, ben, c'est parfait. Ah, il est encore coupé là. Alors, réactiver le son et vidéo. Voilà. Donc ça c'est bon. Tac. Alors est-ce que j'ai assez de son? Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, ça lag un petit peu par contre.
C'est-à-dire? Ça, y a...
ça hache un peu.
Ah, ça hache. Pourtant là on a notre connexion maximale.
C'est bien, par contre.
Alors, paramètres. Justement, on va cacher tout ça, hein. C'est gros bazar. Alors, tableau blanc, modèle nouveau. Ouais, je vais mettre un truc nouveau que je vais aller chercher. Ah non, donc ça ne va pas. Alors, fermez le tableau blanc. Ce n'est pas ça. Il faut que je trouve le moyen d'aller chercher ce truc-là. Paramètres. Alors, arrière-plan, choisir,
on ne va pas chercher. Si, parfait. Et là, j'ai ça dans images. Chargé tout à l'heure. Voilà, je l'ai vu. Pardon, je vous fais perdre du temps. Hop, normalement, c'est bon. Ah, d'accord, voilà. Ah, mais elle ne m'entend plus, elle ne m'entend plus, Claudia.
Et vous ne m'entendez pas non plus?
Non. Ah, merde.
Mais arrêtez de jurer comme une bête, enfin, ça ne change rien.
Ouais, d'accord.
C'est même pas compliqué de se concentrer.
Oui, oui, oui. Voilà, mais je ne vous entendais pas il y a une seconde. Je ne sais pas si vous m'entendiez.
J'entendais du son.
Oui. Voilà. Et poli.
Le son n'est pas terrible.
Ah, ça hache vachement. Hein.
Beaucoup, beaucoup. Par contre, ouais. Je dois vous dire que le plus blanc sur votre arrière-plan.
Ah bon? Bon, bah alors, ok. Ça sera très bien. Ce sera très bien pour demain. Comment on peut faire pour ce son? Ouais. Ouais. Et je suis en Wi-Fi, c'est vrai, mais en principe, ça fonctionne vachement bien. Ou alors, je me mets ailleurs. Vous pensez, Cyril? Ouais. Ah ouais. Et puis, je vois bien que c'est lent. Non, ça coupe trop.
Oui, là, je vais dire, c'est pas terrible la connexion.
Ah, zut. Bon, on va renoncer à ça alors. Ouais, je vais être obligée de passer par.
Il y a pas McDonald's par chez vous, ils ont toujours des très bonnes connexions.
Non. Non, mon mari bosse en télétravail en permanence.
Et la connexion est très bonne.
Et la connexion est bonne et il est en Wi-Fi, c'est ça qui m'étonne. Est-ce qu'il y a un truc lourd C'est pas ce qui bouffe les... Ah ouais, super.
Mais c'est vraiment pas bon.
Non,
c'est
non, non, c'est pas bon du tout.
C'est pas bien du tout.
Qu'est-ce que je pourrais imaginer? Non, bah, je vais le faire avec mon portable. Hein. Tant pis.
Ouais. Bah, ça marchait beaucoup mieux.
Ouais. Je le ferai comme ça, mais par contre, j'aurais pas la ligne droite derrière. C'est idiot. Hein.
C'est dommage. Est-ce que vous avez l'application Zoom sur votre ordinateur?
Exact. C'est ce que je veux dire.
Et en plus, je m'entends.
Ah oui, bon, ça va être très désagréable pour tout le monde.
Il faut couper le haut-parleur.
Je vais télécharger. Alors, Zoom. Ok. Ouais. Zoom.
Là, ça lag plus du tout.
Alors. Ouais, c'est vrai? Tiens. C'est meilleur, là? Ouais, vous voyez, c'est quand même lent en tchic quand je bouge. Ouais. Non, je vais essayer de me connecter. Ah, il est d'une lenteur, là. C'est mon ordi qui bug. Bon. Ce que je peux faire, pour pas vous maintenir en ligne et vous, vous embêter, je peux essayer de faire mes petites connexions avec, en chargeant bien Zoom sur mon ordi. Et puis, impossible avec cette adresse. Ça me saoule, j'ai pas envie de passer par... Facebook. Alors, par Google, je vais passer à un. C'est qui demain matin? Bah, c'est toujours Franck.
C'est Franck. Ouais.
Bon, allez. Ouais, ouais, ok. On peut se rappeler après ou vous avez fini là? Demain matin. Ouais, parce que là. Ouais. Ok. Ça marche. Ouais, ok. À tout à l'heure. Bah ouais, c'est bête. À tout à l'heure. Merci. Hein.
C'est ce qu'on appelle le grand plein jeu, c'est-à-dire là, ce qui est très noble, je peux même rajouter ça, c'est quelque chose de qui a toute sa noblesse. C'est un peu là, souvent même, qu'on trouve la richesse de l'instrument. On dit cet orgue, il a de l'allure, il a une belle personnalité. C'est quand on écoute ce mélange que je viens de faire, le plein jeu. Alors, on peut, chaque jeu a sa personnalité, plus ou moins bien timbrée, ça dépend du facteur d'orgue, de l'harmoniste surtout. Si l'harmoniste est bon, et puis le premier jeu, on se base sur une monte, par exemple, la base. Si la montre est bien timbrée, joliment timbrée, le reste sera très beau. Et vous avez... une autre famille, oui, là j'ai joué ce qu'on appelle les principaux, le plénum. Et je peux vous jouer ce qu'on appelle les jeux d'anche, les bombardes, les trompettes, c'est ça. Et même chose, si l'orgue est beau, normalement les jeux d'anche que je vais vous jouer sont très beaux, normalement. Mais il peut y avoir des... raté. Je vais accoupler et je vais commencer justement par le clavier par lequel j'ai terminé à l'instant, par les pleins jeux, le récit donc, avec ces fameux jeux d'anches. Je vais ouvrir la boîte. Voilà. Les mêmes jeux au-dessus de nos têtes, contre le mur en arrière. Donc, voilà ce que ça va donner. Les mêmes, mais c'est plus présent. Hein. Ils sont juste, en fin de compte, pas loin de nous. Alors que eux, ils sont très loin. Tout en haut, au-dessus de nos têtes, le positif. Là, j'avais tout. Sur le clavier totalisateur, et je peux faire la même chose à la pédale, avec les pieds, donc le récit. Clavier de bombarde. Et maintenant les pieds. Vous voyez ? Alors, la famille est la même, mais l'harmonie n'est pas forcément toujours la même. L'emplacement étant différent, ça sonne différemment. Alors, ce que j'ai eu au pied, je peux avoir les mains aussi. Donc, je vais accoupler ce que j'ai aux mains sur les pieds. Là, ce qu'on entend, c'est des tuyaux en métal. C'est de l'étain, mais j'ai la même chose en grave, qui s'appelle le basson. Alors lui, il est en bois. Donc le son va être beaucoup plus soft, doux. Si je prends la même chose en métal, le son est plus franc et là, plus doux. C'est joli. Alors, dans cette famille de jeux à hanches, vous avez des jeux solistes. Par exemple, le hautbois, j'ai un très joli hautbois qui va un peu rappeler le hautbois de l'orchestre. Donc, je peux moduler au niveau de l'intensité. J'ai ce qu'on appelle le jeu de voix humaine, qui serait censé rappeler la voix humaine, mais vraiment de très loin. Heureusement qu'on ne chante pas comme ça, quand même. Alors, c'est un joli jeu de solo, hein. C'est très beau, la voix humaine. Pour faire ressortir un choral, un aria, là où il y a un chant. Mais ça peut être pris dans un mélange. Ça peut être pris dans un mélange, par exemple, si je fais ça. Ça peut être... J'ouvrirai la boîte. Là, je l'ai. On l'entend mieux quand j'ouvre. Parce que vous avez des jeux en solo qui peuvent être joués en solo, mais qui peuvent se mélanger à d'autres jeux. Tout dépend, mais comme dans l'orchestre, hein, vous pouvez avoir un corps qui joue en solo, mais qui peut se mélanger à d'autres instruments, d'autres familles, ou une flûte, ou n'importe.
Vous êtes un orchestre symphonique à vous tout seul.
Ben oui. Et on a jamais fini de trouver des mélanges, vous voyez, moi ça fait 47 ans que je suis là, et il y a toujours des... Et pourtant il n'y a pas une immense variété de jeux, au niveau des mutations j'ai quasiment rien, j'ai une quinte qui date de l'époque de Cavaillé, vous voyez, je joue un jeu de base. Alors, j'ai des jeux qui ont été rajoutés. À vrai dire, je mens un peu parce que je peux rajouter. Oui, tout à l'heure, je parlais d'éclaircir un orgue comme l'orgue de la Madeleine qui était un peu sombre. Ce qui explique que des jeux plus pointus, on va dire, ont été rajoutés. Vous voyez, par exemple, si je prends ça un jeu de base de Cavaillé, je rajoute un jeu très aigu qui est le piccolo. Aussi des jeux. Alors, il y en a un qui a été rajouté en 1957 et celui-là en 1971. Alors, on entend les mêmes notes, à vrai dire, mais celui-là,
qui était placé au-dessus de notre tête a été déplacé. Il est maintenant au deuxième étage de l'orgue. Et celui-là est au premier, au-dessus de notre tête. Tiens, on me répond là, il y a les pompiers qui me répondent. Et il y a au troisième clavier la même chose et contre le mur. Donc, sur plan spatial, je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, toute l'astuce de l'instrument. On peut avoir les mêmes jeux si je prends les flûtes, les très jolies flûtes de la Madeleine. On entend bien que géographiquement, elles ne sont pas du tout au même endroit. Là, ça va ressembler, ce qui est normal, ils sont au troisième étage. Là, au-dessus de notre tête, en arrière. Il n'y a pas une différence énorme. Par contre, ce qui est intéressant maintenant, c'est de les mettre tous ensemble. Oui, j'ai fait un décrescendo. Et si je remonte? Je suis parti de pianissimo à mezzo forte, enfin pas tout à fait. Donc c'est inépuisable si vous voulez. Alors là, ce que je viens de jouer, je peux les mélanger, ces flûtes, avec plein d'autres jeux. D'autres flûtes, avec des jeux d'anches, la flûte du quatrième clavier, si je la mets à voix, avec la voix humaine, ça va me donner plus de fondamental. Parce que c'est normal, je joue un jeu d'anches qui fait 8 pieds ici. Donc est censé faire 8 fois 30 cm. En gros, le pied c'est 30 à 33 cm. Sauf que là, c'est des anches à corps raccourci. Donc le 8 pieds, en fin de compte, souvent ne dépasse pas le 4 pieds. Mais sonne en 8. Donc ça fait quelque chose un peu aigrelet. Hein? Quand je joue ça, qui fait 8 pieds réels. Le hautbois déjà un peu moins, et là encore moins. Si je rajoute la flûte harmonique de 8, oui, elle va compléter au niveau fondamental. Et là, ça donne un son plein, on va dire complet. Vous voyez? Alors je peux la jeter sur une flûte de 8 pieds. Mais j'en ai une qui fait 4 pieds, donc je vais être à l'octave supérieure. Donc je vais être un peu plus aigu. Si je prends 2 pieds, c'est encore plus aigu. Alors elle est neuve, relativement neuve, parce qu'elle avait disparu. En 1927, elle a été rétablie il y a une trentaine d'années, je dirais. Alors donc, par exemple, si je prends cette flûte de 2, je la mélange avec la flûte de 8. J'ai la même chose. Troisième clavier, ça va être plus présent. Là, j'ai la main droite qui domine, c'est normal, plus présente. Je vais faire le contraire maintenant. Là, je vais mettre les deux mains. Un écho. Oui, on fait ce qu'on veut.
On peut jouer sur tel ou tel clavier. Le quatrième, je peux l'ajouter au troisième. Je peux l'ajouter au second, avoir 4 et 2. Mais je peux avoir 4, 3, 2 aussi. Tout est... Alors ça, attention, c'est des possibilités qu'il n'y avait pas à l'origine. Hein, ça, c'est grâce au système électrique qui a été installé en 1971. Donc, on a des facilités qu'il n'y avait pas à l'époque. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai toute ma messe de ce matin et de tout à l'heure qui est enregistrée avec des petits boutons qui me permettent de ne pas manœuvrer avec les mains entre deux morceaux ou pendant le même morceau, entre deux mouvements. Tout est prêt. Là, j'ai ma messe, les chants d'entrée. Ça, c'est après l'homélie. Là, c'est mon offertoire. Là, c'est ma sonate pour l'entrée, avant la messe. Là, c'est la communion, un trio de Carl-Philippe Helbach. Et ça, c'est ma sortie, Marcel Dupré, qui finit sur la force. Vous voyez, beaucoup de jeux sont sortis. Vous voyez, si je fais ça, il n'y a quasiment rien. Tout est rentré. Et ma sortie qui va finir très fort.
C'est ça. Grâce à ce combinateur séquentiel.
Voilà. Le côté pratique. Alors quelquefois ça peut tomber en panne, il peut y avoir une panne d'électricité, tout peut sauter, enfin bon. Alors c'est pas forcément la faute du combinateur. S'il y a une baisse de tension ou quoi que ce soit, bah, l'orgue il en prend un coup vu que tout est électrique sauf la pédale expressive. Avant tout était mécanique, ça c'est évident.
Valérie.
Oui.
Vous m'entendez? Ça a l'air bien, là.
C'est super. J'ai l'impression, hein.
Ça lague un peu moins.
Un peu quand même.
Un petit peu, mais c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous avez fait?
Ben, j'ai téléchargé un truc et je suis partie de là.
Ça a l'air bien.
Bon, ben, j'espère que ça ira bien demain. De toute façon, je me lèverai tôt et je ferai des petits essais.
D'accord.
Et puis voilà.
Oui, hein, parfait.
Bon, il y a les lunettes qui clignotent. Mais
oui,
je peux
c'est
pas...
ce que j'allais vous dire.
Il faut que je me mette comme ça.
Ou peut-être incliner l'écran différemment. Là, on les a moins, oui. Là, il y a moins de réflexion, c'est mieux, oui.
Pas de surprise d'en bas.
Ou alors, c'est bien quand... Gardez ce pull blanc demain, c'est très très bien.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Il n'est pas jaune, mais ça ne se voit pas.
Mais ça passe très bien avec ligne droite en blanc, comme ça, c'est chouette.
Bon, bah parfait. Maintenant, je vais pouvoir bosser le fond pour demain.
Très bien.
Allez, bonne soirée,
bon,
Claudia.
Bonne
merci
soirée à vous, je vous en prie.
Pour tout.
Au revoir.
À demain.
Quelque chose qui cloche quelque part. Mais à la Madeleine, bon, on a une grande chance. On a un buffet du milieu du 19e et l'orgue, la base, sur ce que je disais tout à l'heure, sur 48 jeux de cavaillis, il y en a 46 actuellement. Et ceux qui ont été rajoutés pour éclaircir, comme je disais, l'avantage avec un bon facteur d'orgue harmoniste, c'est que les jeux modernes se mélangent parfaitement. Quelquefois, vous pouvez entendre un orgue ou jouer un orgue où tel jeu ne correspond pas à l'ensemble instrumental de l'orgue. Donc, c'est un peu embêtant. Là, il faut de l'homogénéité. Alors moi, que ce soit un orgue du 18e, un orgue de 1930, un orgue du 19e, peu importe, quand tout se mélange bien. Et si on rajoute des jeux, il faut que ces jeux modernes se mélangent aux anciens. C'est ça le principal. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, quand en 70 la question s'est posée en 1970? Ça, j'en sais rien du tout. Je ne peux pas dire. Oui, oui, ça je... Il faut être très prudent, la sagesse, réfléchir beaucoup, demander l'avis des collègues, des amis. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait à la Madeleine, me référer beaucoup à un de mes maîtres que j'admirais beaucoup, que j'aimais beaucoup et qui était très savant au niveau de la facture d'orgue et qui était Michel Chapuis. Donc je ne faisais rien sans lui en parler et... d'avoir son avis, pour moi, était important. On peut faire des bêtises. Hein. Je connais des grands organistes, vraiment, je ne veux pas citer, même si c'est des gens qui sont décédés, mais des amis et amis eux, qui ont regretté d'avoir fait altérer leurs instruments à l'époque, dans les années 60-70, où on héritait d'un orgue du 19e siècle, où il était difficile de jouer les Français et Allemands comme Johann Sebastian Bach du 17e, 18e siècle. Et on disposait d'un orgue fait pour jouer la musique du 19e et on voulait jouer la musique du 17e, 18e. Donc on a cru bien faire, on a supprimé des jeux, on en a modifié, on a ajouté des jeux qui se mélangeaient mal. Et j'ai eu une très bonne amie qui m'a dit un jour, oui, non, mais je reconnais que j'ai fait une bêtise. Alors moi, je l'aurais peut-être fait aussi, hein. Je ne critique pas, c'était la mode. Hein. Sur un orgue romantique, on voulait jouer de la musique ancienne, en fait. Ils ont cru bien faire, moi je pense que la démarche était sincère, mais j'ai quand même, moi je me souviens de ce que je pensais, de mes interventions à la radio, déjà quand j'avais une vingtaine d'années. Je me souviens, dans mes premières émissions que je faisais à France Musique, j'avais déjà un souci patrimonial. J'avais une mère qui aimait beaucoup les belles choses, les antiquités, les beaux meubles, et ça me choquait de qu'on puisse, je sais pas, dans un château, une tour, allez, on la casse et puis on met, je sais pas quoi, un truc, voilà, qui se mélange pas. Ça m'a toujours choqué, ça m'a toujours gêné, ça. Ça m'a toujours gêné. Et puis j'ai été habitué, je vois par exemple, on a eu à Orléans, un maire, René Tina, maire de la pianiste Françoise Tina, qui avait un grand souci du patrimoine. Ça m'a bien aidé, bien ouvert. Quand il faisait faire un bâtiment vers la cathédrale, je pense au musée, par exemple, au musée d'Orléans, c'est une copie de ce qu'on aurait pu faire au XVIIIe siècle, de ne pas heurter. Moi, je ne suis pas contre hein, le mélange. Moi, ça ne me gêne pas de voir un tableau moderne, au contraire, au milieu de meubles, d'un mobilier ancien. Mais il faut que ça se mélange. Ça peut très bien se mélanger, mais il ne faut pas heurter, il faut faire attention. Et puis un tableau, on le mettra sur un mur, ok, là, mais pas forcément en face ou sur le côté. Enfin, et les éclairages aussi, moi je le vois souvent chez moi, là. Bon.
Et ça, c'est une vision de l'harmonie, en fait, finalement.
Ben, de l'harmonie, c'est le mot harmonie. Voilà. Il faut qu'il y ait de l'harmonie. Et peu importe, finalement, je disais, il y a des jeux modernes sur un orgue ancien, ça ne me gêne pas parce qu'on a respecté l'ancien. Et ça, je trouve ça important. On n'est pas dans la provocation, il ne faut pas. On ne peut pas se le permettre. Comme vous dites, le mot harmonie, c'est tellement important. Et quand on entend un orgue où tout d'un coup, il y a un jour, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fiche là ? Il n'a rien à faire là. C'est gênant. C'est gênant. Il faut qu'il y ait une harmonie. Il ne faut pas qu'il y ait un jeu qui dépasse ou qui détruise, qui altère. Et c'est le mot, finalement. Vous avez raison. Un orgue, quand vous allez à Saint-Séverin, dans le quartier latin, près de Notre-Dame, non seulement l'église, mais l'orgue, le buffet, harmonie. L'harmonie. Ça, c'est capital. Capital. Donc il faut, l'organiste a quand même une place importante, parce que c'est souvent lui qui détermine, bon il peut y avoir un expert, ça suivant que l'orgue est classé ou pas, etc. Mais ils peuvent tenir compte aussi de l'organiste. Moi, respect. La priorité c'est déjà de respecter l'instrument, et après de trouver une belle harmonie. Moi ça m'est arrivé de jouer des orgues, pas très équilibré, c'est jamais très agréable, mais on ne sait pas trop quoi jouer en plus. Qu'est-ce que je vais jouer ? Du 18e, du 19e ? Oui, mais rien n'est satisfaisant, finalement, tout se mélange un peu mal. Ça arrive, hein, même à Paris. Je connais des instruments comme ça, et ça, c'est important. Vous voyez, par exemple, quand vous entendez l'orgue de Saint-Sulpice, vous avez du matériel du 18e siècle, de Cliquot, qui était certainement un orgue somptueux. Et vous avez Cavaillé-Coll qui a travaillé dans cet orgue au 19e siècle. Et, ben, rien ne heurte. Cavaillé a respecté le Cliquot. Il a respecté. Ça, c'est très, 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 très important. Et je pense que justement, Cavaillé-Coll, je le vois moi dans ma région à Pithiviers, dans le Loiret, où on avait un orgue de la fin du 18e siècle. Cavaillé est arrivé en 1890 et il a respecté. Ce qui était beau, de l'orgue du 18e, qui datait d'un siècle pile. Et on n'a pas toujours dit ça de Cavaillé. Je pense qu'on s'est, à mon avis, trompé. Cavaillé avait beaucoup... Il avait retenu les leçons du père, du grand-père. C'était issu de l'orgue de l'Ancien Régime. Et justement, Cavaillé, je pense, avait beaucoup plus de respect qu'on ne le pense. On le voit à Pithiviers, on l'avait vu à Saint-Méry, quand Saint-Saëns, avant d'être arrivé à la Madeleine, était organiste là-bas, à Saint-Méry, où il avait simplement rajouté des jeux au troisième clavier de récit. À Saint-Omer, à la cathédrale, il arrive sur un orgue ancien. L'orgue ancien, on l'entend toujours. Et Cavaillé avait beaucoup plus de respect qu'on ne le pense. C'était un artiste, avant tout, Cavaillé-Coll. Certainement pas homme d'affaires, il voyait le bien de l'art. C'était un vrai artiste, cet homme-là, et qui était en contact avec les grands organistes. Je pense qu'il leur demandait certainement beaucoup leur avis. Je pense notamment à Alexandre Guillemant, qui était
assurément un bon conseiller et puis, puis d'autres organistes au 19e siècle. Mais c'est important.
Parce que même sur le plan de l'industrie, c'est lui qui a inventé les systèmes d'air comprimé.
Et de scie circulaire.
Les machines Poquelin, les pelleteuses Poquelin, le départ, c'est Cavaillé-Coll qui l'a inventé. Avec Barker, les fameuses machines Barker, bien sûr.
Il avait l'intelligence, Cavaillé, justement. C'est bien que tu parles de Charles Barker, qui était anglais. C'est ce que je disais, il a un peu pioché... dans toute l'Europe, avec intelligence. Et quand je présente l'orga de la Madeleine à des visiteurs allemands, anglais, américains, etc., tous les ans, j'ai plusieurs groupes comme ça, et qui peuvent varier de 20 à 80 personnes, leur dis finalement, l'orgue de la Madeleine, c'est un orgue de transition, un peu classique, un peu romantique, mais pas tout à fait. On n'est plus non plus dans l'orgue de l'Ancien Régime. Et finalement, en ayant pioché un peu partout, je dis, vous allez entendre un orgue européen. Finalement, il était à la pointe de... Il était un peu comme était Victor Hugo avec l'écologie. Et finalement, Cavaillé-Coll... On a tellement banni ce 19e siècle. Moi, j'ai connu une époque, quand on redécouvrait la musique ancienne, dans les années 60, 70, 80, où on a banni Cavaillé-Coll, le 19e siècle. Enfin, vous jouiez des compositeurs. Moi, je me souviens un jour, quelqu'un... Qu'est-ce que tu travailles en ce moment? Je travaille un choral de César Franck. C'est pas de la musique, ça. Et moi, je me souviens à la radio, j'ai certainement été dans les premiers en compact disque. Ça, c'est probable d'enregistrer du Franck, du Vierge. J'ai été dans les premiers, oui. Mais je me souviens à la radio quand je jouais du Saint-Saëns à une époque où on n'en jouait pas. Et en France, on parlait de, c'est de la musique académique, c'est de la musique de salon, etc. Et on allait aux États-Unis, en Allemagne, au Japon. Oh, ça a un sens, ça a un sens. Alors, des compositeurs qui étaient vénérés dans le monde entier, et nous, c'est un peu notre défaut. En France, on a des gens bien, comme on dit, on les casse. Et moi, j'ai toujours défendu, et je jouais du Saint-Saëns à l'orgue des Préludes et Fugues Fantaisie à une époque où on n'en jouait pas.
Nous venons d'écouter François-Henri Houbart interpréter un extrait du prélude et fugue en si majeur de Camille Saint-Saëns.